RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Incroyable, insensé, renversant, le vocabulaire français n'est pas assez riche pour décrire la nature de l'exploit réalisé samedi soir à Dublin par les rugbymen rochelais, vainqueurs du Leinster. Une performance majuscule, plus grande encore que celle de l'an dernier où les Maritimes étaient devenus champions d'Europe pour la première fois de leur histoire, mais à Marseille, pas à domicile, mais presque. Là, c'est sur les terres ennemies, cette pelouse de la Viva Stadium où depuis une bonne décennie se sont brisés tous les espoirs des équipes visiteuses, que les hommes de Ronan O'Gara sont allés arracher cette championne Cup pour ajouter une deuxième étoile au maillot frappé de la caravane, une victoire construite dans la douleur après une entame complètement ratée des Rochelais, ce qui rend le succès encore plus beau. Une performance avec un grand P, sur laquelle nous allons évidemment revenir en détail tout au long de ce podcast avec les poteaux. La bande des poteaux, composée aujourd'hui d'un garçon qui, à la différence de l'an dernier, a su réfréner ses larmes. C'est pas facile, ses larmes de bonheur qui lui montaient aux yeux. Et oui, c'est ça l'expérience, mon petit Wilfried. On est presque blasé, quoi, après un deuxième succès, non?
Ça bouge pas.
Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est... Droit dans ses baskets. Il ne bouge pas. Pas de larmes et des cris de bonheur et des essais annoncés avant même qu'il soit inscrit. C'est ça, la patte Charvet avec un grand C. Ça va, Denis?
Ouais, mais ouais. Wilfried était tellement serein dans ce final qu'il a pas eu de larmes. Ouais. Si tu veux. C'était tellement facile ce final.
Mais on parle de tes essais annoncés avant aussi. Là.
Hein, oui, oui, ça va. Ça va.
Il veut te les piquer pour pas que tu les annonces. Il veut les annoncer lui le premier. Tu as compris comment ça marche.
C'est l'instant. Tu peux pas comprendre.
Si c'était l'instant, il y aurait eu 15 essais quand même. Je me souviens
ouais,
ça.
Sûr.
Lui aussi était à Dublin à la tête des troupes du Midi Olympique, un journal tout de jaune vêtu comme le maillot des Rochelais. Salut Manu.
La couleur des champions, ouais. Bonjour messieurs.
Magnifique. Enfin, une deuxième étoile brodée sur le cœur. Il est digne d'entrer dans la bande des poteaux. Romain Asselin, notre correspondant à La Rochelle, qui a vécu une journée de dingue ce dimanche, samedi, enfin tout le week-end, sur le port de La Rochelle. Il va nous en parler. Salut Romain, on est ravis de t'accueillir.
Salut les poteaux.
Et j'étais là l'année dernière aussi.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu viens une fois par an.
Déjà pour les grandes occasions.
Donc, tu vois. L'eau est pas trop froide dans le port?
Écoute, j'ai pas fini dans le vieux port. J'ai goûté la température du champagne hier. Rémi Piquet s'est fait plaisir avant que le bus ne quitte le vieux port. Ouais, j'ai pris un peu quand même.
Très bien. Avant cela, messieurs, on va se faire un petit plaisir, revivre l'espace de quelques secondes. Ce match complètement dingue, commenté par deux dingos aussi nommés Templier et Charvet.
3, 2, 1, la finale de Champions Cup à la Viva Stadium, c'est parti à l'instant. Premier essai du Leinster, on joue depuis 50 secondes seulement, 5-0. Ouais, essai de James O'Brien, le deuxième essai du Leinster. Les Rochelais déboussolés, les Rochelais acculés. Et le deuxième essai du Leinster, ça fait 12-0 après 6 minutes de jeu. Attention, un essai. Le troisième essai sur le renversement. Le doublé de Dan Sheehan, le cauchemar de La Rochelle. Avec Antonio,
oui.
Antonio qui est
allez,
pris. On est devant les poteaux, faut que ça sorte vite. Avec Astoy,
oui,
allez,
quoi,
il faut attaquer.
Oui,
essai
de Sotoni.
Quelle action. Ce ballon va être pendu. Collant,
oui.
essai. Pas. Il y a essai.
Essai de Collant.
Attends. Si, il a...
oui.
Essai pour La Rochelle.
Ne pense à rien, Antoine Astoy. Ne pense qu'à ces poteaux qui sont devant toi. Et ce ballon qui passe.
La Rochelle est devant pour la première fois de cette finale.
Ils vont la sortir avec Jameson, ça sort. Astoy,
La Rochelle est champion d'Europe pour la deuxième fois
c'est
de suite.
Énorme.
La Rochelle,
c'est
un exploit ici à la Viva. Qui l'eût cru? Un an après Marseille.
C'est fou.
La Rochelle garde son titre 27-26 pour le Stade Rochelais qui était mené 17-0.
Ils sont tous par terre.
C'est fou. C'est
incroyable.
Fou ce qu'ils viennent de faire.
Incroyable.
La Rochelle
exploit de la
vient
Rochelle.
D'écrire l'histoire, Denis.
Oui, c'est l'histoire là.
Il vient d'écrire l'histoire. Deuxième étoile.
Complètement dingo. Vous avez vu que Denis anticipe même le coup d'envoi, c'est-à-dire à deux, il lance le match alors qu'il reste encore deux secondes avant le coup d'envoi. Très très fort.
Je réponds pas.
Ne réponds pas à cette vile provocation.
Non, non.
Incroyable, messieurs, incroyable, ce scénario digne d'Hitchcock, légèrement différent de celui de l'an dernier, mais tout aussi prenant, peut-être même plus, hein, au vu de l'entame qui n'augurait rien de bon. Franchement, à 17-0 au bout de 12 minutes, on a bien cru que les valises rochelaises allaient être très lourdes au retour quand même, messieurs, non? Je ne sais pas votre avis.
D'ailleurs,
à quoi vous pensiez après 12 minutes de jeu?
Bon, Wilfried a avoué, enfin, il a dit, moi je pense que c'est la même chose que lui, il a dit c'est plié.
Mais c'est plié parce que franchement, tu joues le Leinster, c'est l'équipe d'Irlande. On avait le souvenir avec Wilfried de ce match Irlande-France qui avait été catastrophique et qui avait été à l'avantage pendant 80 minutes aux Irlandais. Voilà, donc au bout de 12 minutes, on s'est dit, on va prendre une marée, on va en prendre 40. Surtout que tu avais quand même la vision, le souvenir de la demi-finale de Toulouse. Donc ça veut dire tout ça mêlé fait que tu te dis, c'est fini. C'est fini au bout de.
Eh ben non, moi je l'ai pas vu comme
non,
ça.
Manu, toi tu.
Non. Bon, non,
c'est,
non, non.
C'est plus facile à dire après.
Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que Burn rate les deux transformations, je crois.
Et on dit, à l'antenne, c'est le tour de quatre matchs.
Il a dit Wilfried, oui.
Bah, tu vois, au moins Wilfried connaît le rugby par rapport à
lui. Non, il a dit peut-être qu'il manque un point. Je pensais que à ce niveau-là, ça change tout. Mais on a dit peut-être que ces deux transformations compteront à la fin.
Exactement. Exactement. Et ça fait toute la différence. Alors, il y a des mecs là dans une émission, dans une grande émission de radio, qui nous racontent que Burn est aussi fort que Sexton.
Que Sexton, ouais.
Voilà. Eh ben, on l'a bien vu que Burn était aussi fort que Sexton.
Ouais, enfin, il a fait du West.
Burn à la fin, la pénalité qui tente pas à la fin, je pense que Sexton l'aurait mise, oui, peut-être.
Et oui, mais lui, il n'a pas osé la tenter. C'est ça la différence.
Alors, j'ai lu ce matin qu'apparemment, c'est lui qui voulait la tenter, que c'est ses coéquipiers qui ont voulu aller en touche.
Hein. Ah oui, mais parce qu'ils n'avaient peut-être pas confiance en ses qualités.
Ah oui,
de buteur,
peut-être qu'ils ont perdu confiance en ses qualités, peut-être. Ouais.
Ouais. Donc, Manu y a cru, il croyait encore. Non, Denis n'y croyait plus vraiment.
Comme vous, ouais. Je me dis.
Il y a peut-être un truc. Ouais.
Ils vont peut-être. Les Rochelais ne sont pas encore morts.
Ouais. Romain, tu étais où au moment de cette finale? Tu étais avec les supporters ou tu étais chez toi? Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là?
Ah non, moi j'étais sur le Vieux-Port.
T'étais sur le Vieux-Port déjà avec eux.
Ouais, sur les pontons, j'avais un spot admirable. Je voyais tout le Vieux-Port à 360 degrés. Et je te cache pas que 17-0 au bout de 12 minutes, il y avait pas plus un bruit sur le Vieux-Port, mais franchement, on n'entendait plus grand monde. Et puis petit à petit, ouais, c'est un peu ça. En plus, il y avait un temps l'Irlandaise, les gars. La météo s'est complètement trompée. Il a commencé à y avoir quelques gouttes. On s'est dit, oh là, c'est pas possible, c'est un présage, tout ça. Et puis petites éclaircies. Tu vois que sur le terrain, ça va mieux. Alors l'ambiance remonte. Et puis
le
la potée.
C'est l'image du match de la Rochelle.
C'est ça, ouais. Exactement.
Mais il y a quand même une impression. Vous dites, vous pensez pas que c'est plié, mais les 15 premières minutes. On se fait concasser, enfin les Rochers se font massacrer dans l'impact physique.
C'est la PlayStation, Denis. Jouer la PlayStation. Bah,
les non, mais dans la une vitesse d'exécution incroyable. Et donc, si tu veux, il y a quand même une vision du haut des tribunes. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est des enfants, des juniors, les Rochelais. Donc, si tu veux, il y a quand même cette appréciation qu'il faut prendre en compte.
D'un autre côté, tu te dis, mais c'est trop gros pour être vrai. Cet essai au bout de 30 secondes, enfin 50 secondes, le deuxième qui vient très rapidement, tu te dis, au bout d'un moment, ils vont réagir. Et c'est là où ils sont forts, c'est que très très rapidement, au bout de, allez pas très rapidement, mais autour de la 15e, commence à ressortir un peu la tête de l'eau et tu vois qu'ils arrivent à tenir le ballon. Et heureusement qu'ils marquent par la suite. Hein.
Ouais.
Ouais, après l'essai de, avant la finale, les sauves, il me semble. Voilà, il y a cet essai qui marque juste
avant la mi-temps.
Avant la mi-temps.
Mais là,
on va en parler dans le fil conducteur.
Oui. Commencez pas à me mettre le bordel.
Ce running gag chaque lundi.
Entre le running gag et le train, voilà, entre le fil conducteur et le train, on va bien y arriver.
Tu sais ce que j'en pense du fil conducteur?
Oui, je sais, t'en as rien à faire de rien. Tu ne respectes pas le travail des autres, c'est bien ça ton problème.
Il a jamais respecté un plan de jeu. Comment tu veux qu'il respecte un fil conducteur?
Il vient même d'annoncer un essai avant la finale.
Avant la finale. Alors, après une telle entame, beaucoup d'équipes, c'est vrai, auraient abdiqué, rendu les armes. Rochelais ont donc continué d'y croire et se sont lentement reconstruits avec un mental d'acier, un physique à toute épreuve. Ils devaient en fait cette réaction à leur entraîneur Ronan O'Gara, le Munsterman qui ne pouvait pas perdre à Dublin sur la terre de son ennemi irréductible. Lui en tout cas a continué à y croire. On l'écoute tout de suite.
Surtout après un minute, you know, c'est 7-0, c'est pas un début idéal. Et comme Greg a dit, mais je pense qu'il a jamais cru que ça peut arriver d'être 17-0 après 11 minutes, mais c'était le cas. Non, mais au début, l'équipe de Leinster était possédée. On a vu, you know, Gibson Park qui sortit de la ligne, qui fait un plaquage offensif sur UJ. Il y a beaucoup de moments comme ça. Qui est bien avec le groupe, c'est on n'a jamais vu panique. C'était évident quand on a joué. Même à 17-0, on était dangereux avec la balle. Et le deuxième mi-temps, ça a payé.
Voilà, ça a payé, nous dit Ronan Hogarth.
C'est drôle, j'aime bien cette expression, il dit, cette équipe du Leinster, elle était possédée avec 15 premières minutes, et c'est exactement cette impression-là qu'on avait.
Ouais. Alors, les Rochelais disaient avant le match qu'ils s'attendaient à ce genre de truc, mais enfin, peut-être pas à 17.
Qu'ils avaient dans les scénarios possibles, parce que maintenant, les équipes, elles se disent toutes comment ça peut se passer comme ça, on fait ça, ça peut se passer comme ça, on fait ça. Et oui, ils avaient prévu qu'ils pouvaient prendre la gueule, comme ça. Et avec un écart,
si vous observez bien, sur les deux précédentes confrontations, pareil, hein, ils ont pris un peu l'orage en début de match. Ils ont résisté une heure, c'était ça le plan. Résister une heure et les tuer physiquement, parce que physiquement, ils sont plus forts qu'eux sur la longueur.
Et puis on parlera du banc, je pense, dans le fil conducteur.
Oui, oui, c'est prévu, c'est prévu. Voilà. Romain, un tout petit mot. Justement, la semaine qui a précédé cette finale, dans les conférences de presse, les Rochelais n'ont cessé de témoigner de la confiance qui les animait. Hein, alors que beaucoup de gens prédisaient une victoire large du Leinster, on parlait de miracles. Pour eux, c'était quasiment sûr, ils allaient les battre. Enfin, en tout cas, ils en avaient ils en étaient persuadés.
Il y a une image parlante, c'est la sérénité affichée par Antoine Astoy lundi devant les caméras. Lui, c'était le plus grand match de sa carrière. Il n'avait jamais vécu de finale. C'était seulement les premiers matchs de phase finale de sa carrière, hein, depuis un mois et demi. Il était tranquille, excité, pas trop de pression, tout ça. Je pense qu'en fait, ils lui ont filé la recette. Parce que les Rochelais, ça fait des mois et des mois qu'ils sont convaincus. Ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner avant la finale de l'année dernière, déjà. Ils travaillent pour ça. Il y a un cerveau, celui de Ronan O'Gara, et puis il y en a un dont on parle peut-être moins, c'est celui de Philippe Gardan, le responsable de la préparation physique. Ils ont une cellule de préparation à La Rochelle qui fait un boulot considérable, qui calque toutes ses phases de préparation sur les phases de Champions Cup, et qui, au moment de regarder les datas, et même avant la finale de l'année dernière, disait « Mais attendez, tout le monde dit que le Leinster est plus fort que nous, mais non, regardez ça, c'est pas vrai. Toutes les données physiques, ils étaient au-dessus. » Donc eux, ils sont convaincus depuis le début que, c'est ce que je disais tout à l'heure, à force de résister, ils vont les tuer physiquement.
Ouais. Mais la fraîcheur, elle était rochelaise en seconde mi-temps.
Ouais. C'est quand même dingue que cette équipe du Leinster qui joue combien de matchs par an,
qui joue moins.
Même la semaine d'avant,
c'est dans les têtes aussi là.
Ouais, exactement.
Non, mais c'est pas Aldrich dit tout le temps les finales perdues, c'est fini quoi. Ils ont bouffé leur pain noir. Ils ont perdu les deux finales contre le Stade Toulousain. Ils ont perdu une finale de Challenge Cup contre Clermont. Ça fait pas tout. C'est pas parce que vous avez fait ça que vous allez gagner les finales. Mais voir les autres soulever les trophées, à chaque fois, je pense qu'ils se rappellent ces moments douloureux. Et pour dire, les gars, terminé ça. Ça, on veut plus.
Exactement. Oui, c'est pas les datas qui font revenir les Rochelais à la 20e du match, à la 20e minute ou à la 30e minute.
Ça peut aider.
C'est la tête qui les empêche de craquer. Parce qu'on a tous considéré à un moment donné que le match, il était plié. Même s'il y avait ces quatre points dont on parlait tout à l'heure. C'est
cette
force mentale, ces convictions qui les ont fait revenir dans le match.
Mais le travail d'Éric Blondeau.
Non, mais je pense que le mental, c'est un fait. Le travail, c'est un fait de Blondeau. C'est tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même le travail de Sap des avant aussi. Parce que qui est usant, les ballons portés.
Non, mais ça, c'est les moyens pour y parvenir.
Et mais si tu veux, c'est là où ils ont usé cette équipe de Leinster. C'est-à-dire au fil du match, tout d'un coup, elle s'est épuisée à défendre. Elle s'est épuisée sur les molles. Donc, si tu veux, il y a quand même cette force physique
qui se dégage. Denis, avant ça, il ne faut pas craquer. Et ils ne l'ont pas fait.
Oui, bien sûr. Non, mais oui, physiquement, ils sont au top. Mais quand même, ils ont un jeu qui use l'adversaire terriblement, il me semble.
Ouais. Est-ce que les Irlandais ne se sont pas trompés aussi dans leur façon de jouer ? On ne les attendait pas dans ce registre-là.
Les stats sont incroyables. Les stats de ce match, c'est 68 passes le Leinster dans tout le match. Mais normalement, ils en font 2 à 3 fois plus en match. Ouais. Mais en fait, la possession est rochelaise, 58%. Ils n'ont pas eu le ballon. Alors, une fois qu'ils ont pris le score, ils ont beaucoup joué au pied. Ils ont beaucoup plus joué au pied dans ce match. Mais moi, je pense qu'ils se sont aussi débarrassés du ballon. Ils ont évité les ballons. Ils avaient fait tellement de ballons portés contre Toulouse. Ils savent que la Rochelle, ils détruisent des ballons portés. Ils n'en ont pas fait, mais ils ne sont pas appuyés là-dessus. Donc, du coup, ils ont plus l'initiative. Et ils sont effrités. Franchement, moi, j'ai re-regardé le match ce matin. Ouais.
Et pour aller dans ton sens, Wilfried, Ringrove, qu'on a vu tout le tournoi, qui est un joueur incroyable, Ringrose.
Ringrose.
Il a été absent des débats total. C'est assez curieux, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est un des meilleurs centres européens qui a été complètement effacé.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, tu parles dans le jeu, mais je l'ai trouvé extrêmement énervé sur le terrain. A parlé énormément avec les arbitres pendant la première demi-heure, comme s'ils avaient compris que le match il devait se jouer sur ces moments-là. Ils ont été très, très, très agressifs avec les arbitres de touche, avec l'arbitre central, Ringrose, le 9, le 10, la troisième ligne. Ils mettaient Porter, une pression systématique sur les arbitres. Et c'est quand même pas la preuve
d'une grande
témoignage d'une équipe qui maîtrise son.
Ce qui est dingue, c'est que tu mènes 17-0 au bout de 11 minutes, ton jeu est flamboyant, et malgré tout, tu sens qu'il y a le doute dans la tête des Irlandais depuis le début du match, quoi. C'est pour ça que.
Il y a eu des. Non. Tu parles de ce 17-0, il marque La Rochelle à 14, l'essai de Danty, ils sont à 14, Carbarlow, il a pris le carton jaune à ce moment-là. Et derrière, mais toutes les. Entre 2, 3 et 5 minutes, il y a une erreur du Leinster. Il y a 25e en avant de Gibson
Park. Il y a de la fébrilité aussi, bien sûr.
27e, chandelle de Burn en avant d'O'Brien. 32e, touche dévissée pour Love. 40e, en avant de Love sur une chandelle. Il y a la sortie de James Ryan, le capitaine, à la 30e minute, qui leur fait très mal. Et il y a une autre sortie dont on n'a pas parlé, c'est dès le début de deuxième mi-temps, Furlong, le pilier droit, il était déjà incertain, il avait quitté l'entraînement la veille, il sort et derrière, mais dégagement direct de Gibson Park, faute au sol de Henshaw, Burn contré par Carbarlow, ballon rentré en touche directement par Love, toutes les 5 minutes, comme je vous dis, James Lowe, il a raté son match, à part la première touche qu'il trouve, 50-22, il n'a fait que des conneries. Et puis après, messieurs, on va en parler, ils se sont fait concasser. Démonter, en fait, sur les rugs, sur les mêlées. Je vous le laisse après.
Tu parles dans tous les sens, ça, non?
Gibson Park, à l'heure de jeu, il peut même plus introduire.
Il est où le fil conducteur? Il y a plus.
Esclavirante. Il peut même plus introduire.
Est-ce que vous pouvez l'arrêter, le monsieur qui parle, là, s'il vous plaît?
Non, mais moi, j'ai regardé le match ce matin. Peut-être tout le monde l'a pas fait. Donc, je voulais vous éclairer un petit peu.
Il y a un fil conducteur, monsieur, là.
La déontologie. Bon, j'ai regardé 4 fois. Moi, avec votre fil conducteur, là, vous m'avez perdu. Groupe incroyable dont il est évidemment difficile de sortir un nom, tant ils ont tous été formidables durant la rencontre. Tu parlais effectivement de cette puissance du pack, les Skelton, les Atonio et compagnie. Puisqu'il fallait en choisir un, le PCR a désigné Greg Aldred comme homme du match et même homme du tournoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec les organisateurs? C'est le grand bonhomme de La Rochelle, c'est le grand bonhomme de la saison pour l'instant, Aldred. Messieurs,
il a été déterminant dans les moments durs, difficiles. Il était là, un grand capitaine, chef de meute, il a été explosif, il a avancé sur tous les ballons. Voilà, le Greg Aldred qu'on connaît quand il est à son plus haut niveau, et là il a prouvé l'immensité de son talent.
Et il a été même, je crois, Romain, un leader de troisième mi-temps, a priori.
La rumeur circulait comme quoi il avait 7 grammes hier. Non, bien sûr, c'est pas le cas.
Mais... Il devait intervenir dans Bartoli Time. On nous a fait dire le capitaine Rochelet n'est pas en état de faire l'émission.
Il balance ses dossiers.
Il était chaud sur le bus.
Mais moi j'adore, c'est ça, c'est la troisième mi-temps. En fait, les victoires, elles sont quand même
Christophe,
pas tous les jours.
Normalement, on devrait l'avoir dans la Moscato Show, mais je suis pas sûr non plus.
C'est pas sûr non plus.
On verra ce que l'on prévoit.
D'accord, Manu aussi, Aldred pour toi, ou alors t'en retiens un autre, il y en a un autre qui t'a impressionné plus que Greg.
Sur le match,
ouais.
sur la finale, Skelton, évidemment. Il est juste énorme. Monumental. Monsieur Sazi aussi, parce qu'il fait une très très grosse finale. Après, sur le titre de meilleur joueur européen, c'est tout à fait mérité pour Greg Aldred, mais Skelton, Seteni, Dulin et Sazi m'ont impressionné sur la finale.
J'ai été très étonné au passage des notes qui a été dans un journal
de référence
national sur Sazi, oui, Skelton qui a eu 6, Sazi qui a eu 5, Antonio qui a eu 5. Je ne comprends toujours pas comment ces mecs n'ont pas
ils
été. Ils
sont les meilleurs spécialistes en dessus, donc.
Et je vais dans le sens de Manu parce que Skelton a été monstrueux.
C'est un coup de chef Paturo
dans ce match.
Vous avez mis Paturo à la note. Skelton, il a porté 12 ballons. Aldred, c'est 17. On est habitué. Porteur de balles, c'est celui qui a le plus grand chiffre en Coupe d'Europe cette année. Mais Skelton, 12, il leur a fait mal, mais dans tout. Les rugs en défense,
pendant 80 minutes.
Il fait 3 offload. Il fait 3 offload en plus. Oh là là, il a été.
Mais ça suffit pas, tu vois. Pour Jeff Paturo, c'est 6 sur 10.
Voilà, boum. Deuxième couche. Greg Aldred, en tout cas, grand parmi les grands du rugby français, capitaine du Stade Rochelet, leader du 15 de France, au même titre qu'un Antoine Dupont. Aldred, tout aussi ému qu'il l'avait été l'an dernier après la première étoile.
Même sentiment que la saison dernière, c'est dur, c'est très dur à réaliser. Ça a été un match incroyable. On a fait preuve d'énormément de caractère. Je pensais que j'avais touché le sommet au niveau des émotions. Franchement, ça s'arrête jamais. J'espère juste qu'on va rester dans ce mood et qu'on va surfer sur la vague et qu'on va profiter maintenant.
Et on espère évidemment qu'il connaîtra une encore plus grande émotion, non pas au mois de juin, mais au mois d'octobre, hein, messieurs. Ce serait pas mal, ça, hein, évidemment, avec l'équipe de France.
Juste, c'est bien pour lui parce qu'Antoine Dupont a cannibalisé tous les prix,
c'est vrai,
ces dernières années. Et c'est vrai que lui, il était dans le sillage, il était jamais loin dans les performances. Donc, c'est bien pour Grégory Aldrit, pour l'ensemble de son œuvre depuis des années, quoi.
Une équipe rochelaise qui, à l'image du 15 de France, a pu s'appuyer aussi sur des finishers. Tu le disais tout à l'heure, Wilfried, de haut niveau. C'est aussi ça, la force de La Rochelle, un effectif cohérent et complémentaire. Il n'y a pas que 15 joueurs. Il y en a vraiment, il y a du talent. Et on l'a vu, notamment, lorsqu'ils sont entrés en jeu. Alors que le banc du Leinster m'a semblé un peu plus léger, hein, Manu.
Léger. J'en sais rien.
Ouais.
Non, je peux pas te répondre à cette question.
Quand même, non. Ouais. Quand même le banc du Leinster. Manu.
Je crois que la dynamique, elle est favorable au Rochelet et que le banc Rochelet fait toute la différence. De là à dire que le banc irlandais est plus léger.
Non, mais sur ce match, en tout cas, ils n'ont pas apporté.
Non, mais de toute façon,
voilà, ils sont moins efficaces.
C'est pas le. Oui, mais c'est pas le problème de qualité. On sait très bien que les joueurs, ils ont autant de qualité on l'insère que La Rochelle. C'est l'efficacité. Et c'est vrai que quand les Rochelais rentrent dans le match, chaque fois qu'il y a un joueur qui rentre, il fait la différence. Et c'est ça qui est impressionnant, je trouve. C'est se mettre au service du collectif tout de suite. Et on a vu avec Laveau, on a vu avec Colombe, tous ceux qui sont rentrés, ça a été impressionnant. Impressionnant de maîtrise, quoi, et c'est rare chez les remplaçants, il me semble.
Delay, non, mais ils ont surtout un peu une profondeur, mais qui est folle. Ils ont deux premières lignes, pas quasiment de même niveau, quasiment de même niveau plutôt. Quand vous enlevez Martino, vous mettez Colombe, c'est un monstre. Ouais. Sclavi à gauche derrière Wardy, mais il y a encore Paiva aussi. Derrière, alors on connaît tous les physiques d'Antonio, de Skelton, d'Aldrit, de Botia, mais derrière, Danti, Setoni, c'est du physique. Roule, c'est physique. Donc voilà, ils font très mal, quoi. C'est ça qui est surtout hallucinant. Ils les ont fait fissurer au fur et à mesure.
Ouais. Et surtout, il n'y en a pas un qui a déjoué ou qui a mis du temps à rentrer dans son match. Ils ont tous
tout
été
suite,
très efficaces.
Ils sont mis au
tout de suite. Ouais. Et d'un niveau égal.
Ils sont
égal,
tendus au collectif tout de suite. C'est incroyable.
Étaient au niveau des titulaires. Et il n'y en a pas un seul qui fait une faute à n'importe quel moment du match. Enfin, pour les remplaçants, hein. C'est véritablement impressionnant. L'apport du banc, il est monstrueux.
Impressionnant. Ouais. Ouais.
Greg Aldrit, le capitaine Rochelet, qui à l'issue de la rencontre s'est étonné du manque de respect que lui avait témoigné le capitaine irlandais Ryan lors du toss. Il ne m'a pas regardé dans les yeux, a-t-il expliqué, une tension qui s'est encore accrue à la mi-temps lorsque Ronan O'Gara a voulu aller discuter avec Monsieur Piper, l'arbitre de la rencontre, dans son vestiaire. Et là, Wilfried, on a frôlé le gros incident diplomatique. Hein.
Ouais, alors on l'a su après le match, c'est vrai que le PCR a lancé une enquête pour incident à la mi-temps, donc en gros ce qui s'est passé. Et comme l'année dernière, hein, Ronan O'Gara avait été voir Monsieur Barnes et là il a été voir Monsieur Piper. Bah c'est bien parce que c'est entre la première mi-temps et la deuxième. Non mais c'est son équipe aussi qui a fait plier les choses. Et Monsieur Piper a un arbitrage différent.
Pas le même arbitrage.
Mais il a voulu aller le voir et bah ça les Leinstermen l'ont vu et notamment Sean O'Brien, l'ancien troisième ligne et Sexton qui ne jouaient pas et qui sont interposés. Donc ça a été chaud. Alors nous on a entendu dire que O'Gara aurait envoyé quelques insultes au camp d'en face, quelques fuck, enfin bon bref. Et Skelton est venu prêter main forte. Alors de ce qu'on sait, il n'y a pas eu de.
Quand t'es appuyé par Skelton, tu peux aller au combat. Hein.
Alors les gars, il y a un problème là. Lequel? C'est l'autre là-bas qui me cherchait. Oui, vas-y. Et donc voilà. Bon, à un moment de tension, de toute façon, dans ces matchs, il y en a beaucoup. Et, ouais. Et mais il a raison, Ronan O'Gara là, il fout le bordel. Et faut que ça change à la mi-temps. Faut que le vent tourne.
Déjà l'année dernière, il avait été voir l'arbitre, ça n'avait pas plu au Leinsterman, mais cette fois-ci, il l'attendait au coin du bois. Ouais. Sexton O'Gara, c'est vraiment la guerre. Elle avait commencé sur le terrain entre les deux, hein, qui étaient même si O'Gara était en fin de carrière quand Sexton était à son début, mais déjà dès le départ, le Leinsterman et le Munsterman ne s'aimaient pas, et ça s'arrange pas avec les années, hein, les gars.
Ce qui est incroyable, c'est que autour du stade, il y avait énormément de maillots Rochelais. Et pas toujours porté par des Français. On avait l'impression que l'Irlande était coupée en deux. Alors certes, il y avait beaucoup plus de Leinstermen, mais Je suppute qu'il y ait eu beaucoup de supporters du Munster qui portaient les couleurs de La Rochelle plutôt que celles de Munster. Ouais.
C'est incroyable. Non, moi j'en avais vu à Twickenham comme ça, qui était là avec leur, déjà avec leur maillot rouge, hein, mais qui était derrière La Rochelle.
Ouais. On a l'impression que la scission entre l'Est et l'Ouest de l'Irlande est plus importante qu'entre le Nord et le Sud quand même.
C'est un peu ça.
C'est dingue ça. En tout cas, fallait pas énerver les Rochelais. Grosse erreur de la part des Irlandais qui font parfois un peu preuve de condescendance vis-à-vis de leurs adversaires. Cullen, par exemple, qui à l'issue de la rencontre a expliqué en top 14, ils attirent des joueurs du monde entier quand nous avons un tas de gars qui passent par le système de formation. J'ai lu ça dans Midi LV ce matin. On va continuer de s'y tenir et continuer à croire en eux. C'est quand même un peu facile de désigner La Rochelle comme un club de mercenaires. C'est pas l'idée qu'on s'en fait nous côté français, du côté de la
c'est
Manche.
C'est vrai qu'eux n'ont pas de joueurs étrangers dans leur chez eux. Hein, zéro. Ouais.
Non, il n'a pas complètement, pas sans les traiter de mercenaires, il n'a pas complètement tort sur les moyens.
Oui, bien sûr.
Gibson Park, James Lowe, c'est des néo-Z et tout, mais la majorité de l'Irlande, c'est des gens formés dans les collèges, ce qu'on appelle les collèges en Irlande, quoi. Les moyens ne sont pas les mêmes, le nombre de licenciés n'est pas les mêmes et le budget n'est pas les mêmes. Et on ne peut pas complètement le contredire, non ? Je sais pas.
Bon, La Rochelle fait des efforts en la matière quand même. Ils en sortent.
Bien sûr, bien sûr. Il faut pas être être aveugle non plus sur le et moi c'est enfin on en parlera peut-être dans un autre entre les poteaux plus tard. Ce qui me fait peur moi c'est le l'omnipotence du top 14 quand on voit les Anglais en difficulté comme ça financièrement et tout. À quoi va ressembler cette Coupe d'Europe, il y aura les Sud-Africains et
la
tout,
mais fragilité
on a quand même
modèle,
plus de moyens en France les gars
Wilfried, on joue quand même beaucoup plus qu'eux, ils ont c'est pas vrai. Du tout les mêmes modèles, donc qu'on soit isolé c'est une chose, qu'on ait plus de moyens que oui c'est évident, on va plus rechercher le star et de joueurs étrangers, c'est évident. Il y en a moins avec les GIFs. Mais eux jouent 15 matchs importants dans l'année, quand les nôtres, ils en jouent quasiment 30. Hein.
Mais les garçons qui font aujourd'hui le gros de l'effectif de La Rochelle, bon, effectivement, Skelton est arrivé, c'était déjà une star, mais les Antonio, les Botia, ils sont allés les chercher, c'était pas des grandes stars du rugby mondial quand même.
Bien sûr.
Un pro des deux.
Non, mais c'est là où il faut vanter les mérites du recrutement de La Rochelle. Aujourd'hui, ils sont allés chercher Asto et Sutoni, qui ont fait un match énorme et qui sont les grands gagnants.
La plus-value, Denis, ouais. La plus
Donc, pourquoi ces joueurs vont à La Rochelle ? Il doit y avoir une vraie raison, une peut-être raison par rapport à un club familial qui s'est bien construit, qui fait, comment dire, où les joueurs se sentent en confiance. Et
avec un bel environnement.
Romain,
c'est un tout.
C'est vrai qu'il y a un truc vertueux en ce moment, Romain, à La Rochelle.
Ouais, il y a un port, ouais, c'est ça, ouais.
Mais t'as une structure de préparation
aussi. Non, mais je veux dire, pourquoi Astoy va jouer ? Oui. Pourquoi Astoy va jouer à La Rochelle et va pas jouer au Stade Français ou Racing, tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'il a la promesse il a l'assurance de jouer les premiers rôles. C'est déjà la première des choses.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, je disais à Romain, un truc vertueux, un cercle vertueux là.
Oui, et puis bon, La Rochelle gagne, tu as raison.
Exactement, et puis aujourd'hui, c'est un club attirant. C'est un club attirant pour.
Vous voulez pas laisser parler Romain, en fait.
Vas-y, Romain.
Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés ces dernières années qui disent, mais en fait, moi, la visite à La Rochelle, alors que j'étais en contact avec d'autres clubs, a été l'élément déclencheur. Certains sont sortis de la visite avec Vincent Merlingue, avec Pierre Vénère et compagnie, au Gard aussi. Ils ont dit, non, mais en fait, les gars, moi, je signe ici. Voilà.
C'est sûr
la
c'est
manière
pas,
dont
c'est
le président Merlin
agréable au monde quand même.
Accueille, c'est. Je me rappelle, il m'avait raconté une fois qu'il avait, accueilli Danti autour d'un poulet frites. Il avait un repas prévu dimanche. Le président Merlin, il avait annulé son repas. Il avait dit à Joe, viens, hein, on va se faire un petit poulet frites à la maison avec Françoise, mon épouse. Voilà, ce genre de petits détails qui font
mais non, mais
que
le côté,
les joueurs ils sortent de là,
Romain.
Ils ont envie de venir. Ah,
c'est sûr que
c'est
quand
ce que je dis, Romain.
On t'accueille avec un plateau de fruits de mer.
Sur Christophe, il aurait signé tout de suite.
Ah, mais moi j'ai signé tout de suite pour la région aussi, tu le sais, Wilfried. Voilà,
toi, t'as les autres Gilardeau.
Exactement.
C'est un vrai, quand je dis, c'est un club familial qui rassure en fait. Donc il y a le fait qu'il gagne, effectivement, que c'est un club qui. Où tu as envie d'aller jouer dans ce club pour gagner des titres, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a quand même une attirance par rapport à son président. Ouais,
et si tu n'as pas un état d'esprit comme ça, tu ne la gagnes pas, la finale. Hein. Parce que là, ça montre aussi que les mecs, ils sont soudés. Ils sont comme des frères. C'est ce que disait Romain Sazi dans Bartoli
Taïmière.
C'est le mot
qu'il a employé.
On est comme des frères.
C'est ça. C'est ça, c'est très juste.
L'Irlande qui
après,
parle...
ça fait pas tout. Hein.
Ah non, non,
il y a,
non.
Il y a l'argent quand même. Hein.
Ah, évidemment.
Non, ils sont pas payés. Mais non, ils sont pas payés.
C'est ça. Ils jouent bénévolement.
Ils sont payés en huîtres. L'Irlande, qui par l'intermédiaire de son club phare et véritable antichambre de la sélection, subit là un revers significatif quand même à 4 mois de la Coupe du Monde. Et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le rugby français, même si le 15 de France est bien différent du Stade Rochelet. Ça montre en tout cas que cette équipe irlandaise a des failles. À Galtier de bien les identifier et d'essayer de faire pareil. Si nous étions amenés à affronter l'Irlande, ce sera en quart ou en finale. Mais là aussi, dans l'optique de la Coupe du Monde, c'est important cette victoire. Parce que là, c'est l'équipe d'Irlande qui a été battue quand même.
Absolument. Ouais, mais... Alors, absolument, sachant qu'on n'a pas les mêmes forces que
l'équipe
de France qu'avec la Rochelle.
Bah, donc, c'est avec toi, Denis, qu'on en parlait ou quelqu'un me disait ce week-end, la Rochelle a un plus gros pack que le 15 de France.
Oui, moi je pense. Oui. Moi je le pense, oui. Je pense que le pack
alors,
de Rochelle.
J'avais du mal à comparer, à mesurer.
Mais tu as surtout ce phénomène qui s'appelle Skelton. Faut arrêter. C'est un mec à lui tout seul. Il change le cours d'un match. Il tient ses gars. Il tient la mêlée. C'est une forteresse. Ce
il
gars.
Chambre. Donc,
si tu veux, tu n'as pas cet élément-là en équipe de France.
Bah si, il existe.
C'est pas
si,
pour
si,
ça.
Si,
mais un fou. Il va peut-être venir.
Mais un fou. Mais il est tendre. Oui, mais il est tendre. Donc, c'est pas. Tu peux pas comparer mais un fou aujourd'hui avec.
Il a pas. C'est pas qu'il est tendre. C'est qu'il a pas l'expérience de Skelton.
Oui, mais tendre, c'est tendre. Mais tendre, ça veut dire l'expérience. Mais non, mais quand je dis tendre, c'est par rapport à l'expérience, Wilfried. Je dis exactement ça par rapport au fait que il a pas connu le très haut niveau depuis longtemps et puis. Il s'installe en ce moment. Mais moi, je pense quand même que cette victoire, elle est encourageante et qu'elle va donner vraiment de bons enseignements à Fabien Galtier, j'en suis sûr. Et puis, c'est bien pour nous. C'est bien pour l'équipe de France.
Évidemment.
Tout n'est pas vert. Ça, c'est certain. Tout n'est pas vert. Et il nous reste pas mal de choses à exploiter face à ces Irlandais. Mais l'option met à fou, messieurs. Moi, je suis à la place de Fabien Galtier. C'est ce que... C'est un peu ce que j'ai écrit dans Middle aujourd'hui.
Bien sûr.
Il nous faut Mea Fou. Aujourd'hui, il nous faut un profil comme Mea Fou.
Bon, ça en est où, ça, d'ailleurs, vous, les enquêteurs?
Mi-juin, il a dit.
Réponse mi-juin?
La réponse, ouais.
Ouais. Bon.
Physique comme ça, là, moi, si je suis physique, là, Denis, dans le taxi, je te rattrape. Je t'aurais fait de tout, Denis, mais bon.
Ça aurait été affreux. Si t'avais eu ce physique-là, ça aurait été affreux.
On n'aurait plus pu te tenir. Je suis un tout petit peu moins grand.
Ouais, t'es un petit peu, ouais. La moitié, t'es la moitié quand même.
T'aurais aimé les jouer, toi, ces joueurs-là, toi, Wilfried, non?
J'aurais fait reculer.
Oui, c'est ça. Un succès, évidemment, marquant. Il est très rare, mais qu'un club décroche le trophée 2 années d'affilée. Seuls les Saracens, Toulon et Leicester y étaient parvenus jusque-là. Même le grand Stade Toulousain, pourtant vainqueur à 5 reprises de la compétition, n'a jamais réussi le back-to-back. C'est dire donc l'exploit réalisé. Pour autant, cet exploit est-il historique, digne des plus grands exploits du rugby français? Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est l'équivalent des succès les plus marquants du 15 de France, par exemple? Évidemment, quand on pense à un France-Nouvelle-Zélande 99, un France-Australie 87, c'est du même acabit pour vous cet exploit?
Pour moi, c'est un match qui marquera l'histoire. Après, est-ce que c'est pour les comparer, je ne sais pas. Mais
avec l'équipe de France, c'est difficile, mais en club peut-être, Denis.
Historique. C'est un match historique en club, évidemment. Évidemment que c'est un des sommets de ce qu'on peut attendre d'un match avec le suspense, avec la qualité, avec l'engagement. Et puis surtout lors d'une finale. Oui,
c'est la première fois qu'un club français bat une équipe irlandaise en finale de Coupe d'Europe. Jusque-là, on avait toujours perdu. Hein.
Oui, et puis surtout en Irlande.
La deuxième fois. Sauf l'année dernière, évidemment. Deuxième fois.
Ouais, c'est vrai. Les Irlandais menaient.
Mais pour moi, ils sont rentrés. La Rochelle est rentrée dans l'histoire, mais ce match rentrera dans l'histoire.
Très bien.
Mais c'est digne d'un France Black 99. Hein.
C'est digne, oui,
sur,
pour toi, c'est digne.
Sur le scénario. Sur le scénario.
Oui, mais ce n'est pas la même compétition.
Ça n'a rien à voir.
Ce n'est pas la même portée.
Non, ce n'est pas la même compétition.
Mais dans le côté irréel et dans la folie, c'est digne de.
Oui, c'est pareil. On est
sur la même chose. D'un côté, tu as du Bernard Salt, du Domi et des arbres. Des percées de partout, là tu les as concassées. Donc c'est incomparable sur le style, mais sur la portée et sur le scénario,
sur le travail de sape des Rochelais. Travail de sape.
Alors, un succès fêté comme il se doit par le peuple rochelais. On avait déjà vécu des scènes incroyables l'année dernière. Romain, tu n'étais pas à Dublin, mais sur le vieux port de La Rochelle, finalement, c'était peut-être mieux, parce que c'est là que ça se passait quand même. Hein.
Je crois bien, messieurs, que le vieux port a battu tous les records de fréquentation. 50 000 personnes hier pour la présentation du trophée et la grande parade. On va en reparler. 40 000 la veille devant les écrans géants pour suivre la finale. Accrochez-vous, ça a donné ça au coup de sifflet final. Je le disais tout à l'heure, une vue à 360 degrés incroyable de là où j'étais au milieu du bassin sur les pontons. L'impression d'être dans un stade à ciel ouvert entre fumigènes, drapeaux, chants et j'en passe. Guillaume, à mes côtés, sur son bateau, est ébouriffé par le scénario.
Première mi-temps, j'ai cru que c'était mort. Quand il y avait 17-0, j'ai arrêté d'y croire, quoi. Et là, ça revient encore, 17-7, après tu remontes. C'est là, wesh, ils vont le faire. Et ils l'ont fait, quoi. T'es tout en bas au début, et après tu remontes tout en haut. Voilà, c'est les montagnes russes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de sauter dans l'eau. Et il a sauté dans l'eau. Il a sauté dans l'eau. Il a sauté dans l'eau.
Je confirme, il a sauté. Vous avez sans doute entendu des dizaines de réactions de supporters sur RMC depuis samedi soir. Tiens, je vais vous en proposer une inédite, celle de Julien. Pas tout à fait sobre, faut le dire, mais il a les bons mots et il a le mérite de surfer sur l'actualité.
On fait voir que avec Monsieur Merlingue l'enchanteur, nous avons évolué à un très grand niveau. Une équipe rochelaise qui est issue du Festival de Cannes.
Voilà, attention à la transition, messieurs les poteaux. La Cannes, c'est la montée des marches. À La Rochelle, c'est la descente de l'avion. Monde fou à l'aéroport pour le retour des champions dans la nuit. 2000 supporters, parmi eux Gwen. Alors on le voit tous les week-ends à la télé, en tribune avec sa grosse caisse. Journée marathon pour lui, il était dès 9h. Le matin même sur le Vieux-Port.
J'avais les grosses caisses dans ma voiture, hein, donc il fallait avoir la place, le bon endroit. Ça se prépare tout ça quand même. Quand on va voir les joueurs là, ça va être aussi... Il n'y a pas de mots. On a quand même battu l'Irlande en fait, hein, quand même. Hein. C'est encore mieux que la première étoile. On est sur le toit de l'Europe une deuxième fois, donc faut le marquer le coup.
Et ils l'ont marqué le coup. 3h45 du matin, les joueurs débarquent pour brandir la coupe. Nouvelle scène de liesse en pleine nuit. Le président Merlingue profite, les yeux rougis.
Ils sont exceptionnels, vous vous rendez compte, il est 3h du matin, c'est incroyable, quoi. Ils sont toujours là, toujours à nous soutenir et les joueurs ont gagné ce match pour eux parce que ils ont un tel affectif pour leur public qu'il fallait qu'ils gagnent ce match et ils l'ont fait.
Et ça valait bien une nuit blanche et arrosée, hein, on l'a dit, certains joueurs étaient même dès 8h sur le marché de La Rochelle dimanche matin pour partager une petite mousse. Avant une autre journée folle, parade sur le Vieux-Port et là, je le disais, 50 000 personnes, encore plus de monde que l'an dernier.
Incroyable, ouais, je suis là depuis hier, j'ai vu la fédale ici, tout le monde se rejoint de toute la France pour vivre un moment comme ça, c'est un moment inoubliable.
Regardez un petit peu le regard des enfants, ils ont juste la banane.
16h, coup d'envoi de la parade, on voit déjà des téléphones voler dès l'arrivée du bus à Impérial, certains les jettent en l'air. C'est dingue, en espérant qu'il soit rattrapé par un joueur pour prendre un selfie ou tourner une vidéo sur le bus. Alors, c'est un peu comme jeter la pièce, hein. Je pense qu'il restera quelques carcasses de portables, hein, sur la route, là il y en a encore. Sur le bus, deux Coupes d'Europe pour le prix d'une, des joueurs qui chantent, qui dansent, un stock de bouteilles inépuisables. Et Joachim, comme moi, en a fait les frais en s'approchant du bus.
Merci, il nous a revu à la bière, super sympa, au champagne aussi, on a pris la bonne douche, c'est nickel. On se lave plus pour regarder ça. Elle est nickel la parade, il y a une super ambiance, tout le monde chante, tout le monde est heureux, c'est du plein bonheur.
Et on a vu des larmes de joie comme celle de Jackie quand il voit arriver le bus avec deux coupes, et bien elle craque.
Supporter depuis 60 ans, 60 ans, premier titre, enfin, premier titre. Cette passion qui anime la ville depuis 60 ans, c'est extraordinaire.
Certains joueurs aussi ont craqué, on a vu Winnie Antonio par exemple descendre du bus pour s'offrir un bain de foule. Et puis Quentin Lespio s'emparer de la sono.
Et maintenant La Rochelle, on fait tout péter. Cha-la-la-la-la-la-la. Oh, Rochelais, vous êtes énormes.
Il est 17h30, la parade s'achèvera 3/4 d'heure plus tard. Moins longue que l'an dernier pour en garder un peu sous le pied. Signe d'un club concentré pour la suite. Alors si Géraldine, elle, pense déjà à d'autres étoiles européennes...
Mais du coup, on va plus avoir assez de place, il va falloir une grosse poitrine.
Bah, faut pas oublier qu'il y a d'abord le Brennus quand même à aller
on
chercher.
Doubler, bien sûr, hein. Il nous le faut le doubler maintenant. Moi j'ai déjà les places pour Saint-Sébastien, on va aller voir pour la demi. Puis le Stade de France, ça va le faire.
Voilà, Lionel, il est comme tous les Rochelais, maintenant tu le connais bien, Lionel Paco, bah, il ne rêve que d'une chose, c'est remettre ça sur le Vieux-Port le 18 juin, au lendemain de la finale du Top 14.
Incroyable, incroyable fête.
Bravo.
magnifique. C'est vrai que les images de fête après une victoire sont toujours rafraîchissantes, mais celle de La Rochelle peut-être un peu plus. Aucun incident à déplorer, que des gens heureux de fêter leur équipe, le Stade Rochelais qui fait la fierté de la ville et de toute la région. Wilfried et Romain, vous êtes originaire de cette région. Dites-nous un peu ce que représente ce club pour les habitants de Charente-Maritime. Il y a Pierre Amiche aussi qui est derrière la vitre, lui qui a presque les larmes aux yeux.
Il va casser la vitre.
Wilfried, toi, tu as porté le maillot du Stade Rochelais.
Mais c'est devenu exponentiel. Hein. Ouais. C'est devenu exponentiel. C'était dans les années 80, 90, même en groupe B, quand il y avait l'élite à 80 clubs, il y avait quand même toujours 5000, 6000 spectateurs, ce qui était beaucoup à l'époque. Hein. Et puis après, quand ils sont montés une première fois en top 16, top 14, début des années 2000, ça montait à 10 000. Mais là, c'est devenu. Alors, le club a toujours été suivi, Mais ce qui a changé, c'est la toile d'araignée de La Rochelle. En montant dans la région, on en parle souvent. Angers, Cholet, vers l'est, partout. Et puis les drapeaux, les maillots, le merchandising que le club a créé. Il y a 20 ans, les gens n'avaient pas tous les maillots, tous les polos du Stade Rochelet. Vous allez à Marcel de Flandre. Tous, ils ont tous un maillot, tous quelque chose, quoi. Donc, il y a une identité, voilà, qui s'est créée, qui s'est renforcée, qui s'est décuplée. Et puis les gens, il y a des drapeaux partout sur les maisons et tout. Bah, ils sont fiers parce qu'il y avait, ça n'avait pas gagné grand chose jusque-là. Et là, La Rochelle, le Stade Rochelet met La Rochelle encore plus. C'était connu quand même touristiquement, historiquement, mais encore plus sur la carte de France, quoi.
Ouais, tu le disais, c'est un club qui arrose toute une région, en fait. Même au-delà, hein. C'est le seul club professionnel dans un sport médiatisé, entre Bordeaux et Nantes, en fait. Et effectivement, il y avait même des gens hier, j'ai discuté avec pas mal de personnes, qui n'étaient pas forcément rugby, mais qui sont en train de le devenir. Ils sont en train de convertir plein de gens, même à tel point qu'il y en a certains qui se sont fait tatouer l'étoile de l'année dernière, la coupe également. Je pense qu'il va y avoir encore pas mal. Il y a du boulot pour les tatoueurs. Hein. Les tatoueurs Rochelais, là, je pense même au-delà, ils ont du boulot cette semaine.
Ouais, et puis dans toute la région, tu vois, sur les maisons, le petit drapeau du club, et pas seulement à 10 km autour de La Rochelle. Alors, le Stade Rochelais qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, l'appétit vient en mangeant, nous dit-on. Cet appétit est décuplé par le succès du week-end. L'an dernier, Aldrit et ses camarades avaient eu un peu de mal à digérer le succès. Ils avaient aussi dignement fêté la victoire et ils sont allés s'écraser en barrage. Cette année, la situation est un peu différente, Manu, parce que La Rochelle est déjà qualifiée pour les demi-finales directement. Donc, ils vont avoir 3 semaines pour se remettre. Désormais, c'est l'objectif doublé, pas seulement doublé Coupe d'Europe, mais doublé Coupe d'Europe et championnat. Ils peuvent le faire, selon toi ?
Ouais, tu l'as dit, tout est totalement différent. Parce que d'abord, le calendrier, et puis tu l'as dit, ils sont qualifiés. Donc, ils n'iront pas jouer ce barrage qui avait fait très mal l'année dernière. Hein. On se souvient, ça avait fait mal aux deux équipes, hein, à Toulouse et à La Rochelle. Là, il y a la promesse d'aller au bout. Ils ont confirmé. On a l'impression, pour les avoir vus, pour avoir vu les dirigeants autour du match, qu'ils étaient moins stressés que l'année dernière et que le fait d'avoir gagné l'année dernière, ça les a soulagés de quelque chose et qu'ils ont tourné la page. Maintenant, le prochain objectif, ce n'est pas de regagner, c'est véritablement de gagner ce bouclier de Brennus. Et puis, il y a un deuxième élément que moi, je verrai très, très fort là-dessus, c'est que c'est la fin d'une époque avec la fin de la carrière de Romain Sazi. Il l'a dit hier à votre micro, il veut y aller, il a demandé à ses potes d'y aller. Et je suis persuadé que, contrairement à l'année dernière, ils ne vont pas se satisfaire de ce titre européen. Ils voient plus loin, ils voient le bout de la route. Et j'imagine qu'ils rêvent tous d'une finale contre Toulouse.
Denis, la question seul, pour toi, on sait que le Stade Rochelet peut désormais regarder le Stade Toulousain dans les yeux. Est-ce qu'ils peuvent lui faire baisser les yeux ?
Pour moi, le seul adversaire de La Rochelle, c'est La Rochelle. Je pense que s'ils sont maîtres du sujet, s'ils restent au top physiquement, ils sont imbattables.
Ça va faire plaisir aux Toulousains, ça.
Allô, Hugo Moulin ?
Oui, là, pour énerver les Toulousains, vas-y, Tati.
Je pense que le contexte aujourd'hui, il a rappelé le calendrier Manu, il a rappelé ce contexte qui est favorable, extrêmement favorable à La Rochelle. Quand on voit la dynamique, quand on voit la confiance qu'ils ont, inébranlable, je me dis que personne ne va les battre. Voilà, c'est ce que je pense. Et que le seul adversaire, c'est peut-être La Rochelle, si ben, y a un excès de confiance, je ne crois pas, si tout d'un coup on s'égare, mais je ne crois pas. Donc si tu veux, comme ils ne vont pas avoir de blessés jusqu'à la demi-finale, il faudrait vraiment qu'il y ait une série noire pour qu'ils aillent en finale avec une équipe amoindrie, mais je ne crois pas non plus. Donc, oui. Sincèrement, ils sont impressionnants et je ne vois pas qui peut les arrêter.
Eh bien, nous verrons ça. En tous les cas, c'est une fin de saison excitante qui nous attend, puisque la Coupe d'Europe, la Champions Cup est désormais derrière nous. Elle est dans la poche du Stade Rochelet maintenant. Eh bien, place à cette fin de championnat, faite de top 14, qui va être passionnante. Merci les
potos. Pourquoi Wilfried, il donne pas son avis là, sur ce sujet?
On me l'a pas demandé, donc je bouge pas.
Hein, non, parce qu'autrement, tu sais que ses voisins vont encore l'embêter pendant 3 semaines. Là, ça va être terrible.
Et tout le monde voit ça, évidemment. Tout le monde voit ça en finale. Les autres clubs, le Racing, ça, sont pas d'accord, mais tout le monde voit évidemment. Ça. Et je pense que ce serait. Voilà, ça ferait des étincelles et ce serait génial. Ah, et il n'y a pas mieux pour les Toulousains qu'un tel challenge. Et il n'y a pas
sans
mieux pour
faire
les Rochelais
à tout le monde. sans ouais, sans oui, oui, bien sûr. Aux autres équipes, on en reste
pas mieux pour les Rochers que de se venger un petit peu des finales perdues contre les Toulousains. Donc, nous, pour les journalistes, pour ça, pour le scénario semble idéal comme ça. On verra si c'est le cas. Ça va être un match en très haute altitude, de haute volée. Ça va être au Stade de France. Ça pourrait être génial quand même, hein, entre Rochers et Toulousains, avec une tension au maximum.
Oh là là, il y a Wilfried qui sera encore au sommet de sa
forme. Il va bien s'installer en terrain neutre à Paris pendant une semaine.
Je fous mon fils dehors. C'est supporter toulousain, je vous le rappelle.
Merci les garçons. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre les Potons. On s'est régalé. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao. Salut.